Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La Bible se sert d'images tirées de la vie quotidienne afin de faire passer des leçons spirituelles. Dans la courte série que nous continuons aujourd'hui, nous explorons le sens de l'image biblique des vêtements que nous portons.
Je souhaite la bienvenue à notre invité Jean-Marc.
Bonjour Yann et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons lu le récit biblique d'Adam et Ève qui essayèrent de cacher leur culpabilité due à leur désobéissance à Dieu en se cousant des vêtements faits de feuilles de figuier. Nous avons vu que ce qu'ils firent n'a pas suffi aux yeux de Dieu, car Dieu, dans sa grâce, dut leur fournir des vêtements faits de peau d'animal. De là, nous pouvons conclure qu'à travers la Bible, lorsque des vêtements servent d'image, ils représentent soit notre état de pécheur devant l'Éternel, soit la justice que Dieu apporte.
Pouvez-vous vous expliquer davantage en citant d'autres textes allant dans ce sens?
Oui. Prenons aujourd'hui les prophètes, Yann. Pouvez-vous lire deux textes du prophète Ésaïe, s'il vous plaît? Il s'agit d'abord du chapitre 64, verset 5, et ensuite du chapitre 61, verset 10.
Donc nous lisons en Ésaïe, chapitre 64, verset 5. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des habits souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage, nos fautes nous emportent comme le vent. À présent, écoutons Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice.
Nous savons que certains événements dans la vie exigent le port de tenues appropriées. Nous pouvons penser par exemple au mariage et à ce que la tradition impose aux mariés et même à leurs invités quant à la tenue vestimentaire qu'ils doivent porter ce jour-là. Un autre exemple. Si l'on a obtenu le privilège d'un entretien avec le président ou le roi de son pays, la politesse exige, encore une fois, de porter ce jour-là une certaine tenue. Et si l'on tente d'arriver au rendez-vous habillé n'importe comment, que peut-il se passer ?
Cela risque d'être très mal vu. Il est même possible que l'on ne lui permette plus de voir le président.
C'est exact, Yann. Et la Bible nous pose le même genre de questions. Quelles sont les conditions requises pour pouvoir nous entretenir avec Dieu, avec celui qui est parfaitement juste et saint?
Alors, qu'apprenons-nous à ce sujet dans les deux textes lus tout à l'heure?
Dans le premier, le prophète compare notre état de pécheur à une personne habillée de vêtements sales et déchirés. Il affirme que même en offrant le meilleur de nous-mêmes, ce que nous donnons à Dieu est souillé.
Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire par « notre état pécheur » ?
Oui, c'est ce penchant naturel que nous avons d'accomplir le mal. Il s'exprime à travers nos pensées, nos sentiments, nos motivations, nos ambitions, ainsi qu'à travers nos paroles et nos actes. Évidemment, ce penchant apparaît plus manifeste pour certains que pour d'autres. Toutefois, aux yeux de Dieu, les conséquences sont les mêmes. Nous ne sommes pas dignes d'entrer dans sa présence.
Il s'agit là d'une conclusion à la fois triste et dépourvue d'espoir.
C'est pourquoi nous devons retenir ce que le prophète déclare dans le deuxième texte lu. Pour reprendre l'image du vêtement, il est vrai que nous ne sommes pas suffisamment bien habillés pour entrer dans la présence de Dieu, mais dans sa bonté et sa grâce, il nous revêt de vêtements dont nous avons besoin. Notez bien qu'il s'agit, selon le prophète, d'être revêtu d'habits de salut et d'être enveloppé d'un manteau de justice. C'est l'Éternel qui offre ses vêtements comme on offre un cadeau. Nous ne pouvons rien faire pour nous les procurer. Nous ne les méritons pas. Il nous faut simplement recevoir le don que Dieu nous offre. Habillés ainsi, nous pourrons entrer dans la présence de Dieu et lui parler. Imaginons à présent qu'un homme arrive au palais du président désireux de le rencontrer. Il est en piteux état et revêtu des pires guenilles. L'entourage du président ne le laisse pas franchir le seuil de la porte et se plaint au président de la conduite de ce mendiant. Le président confirme qu'habituellement il ne reçoit pas les gens habillés ainsi. Toutefois, il se dirige vers son armoire et y trouve un fort beau costume. Puis il déclare à son secrétaire « Donnez ces vêtements à cet homme, s'il les met, je le recevrai. »
Voilà une belle illustration. Dieu ne peut supporter nos péchés, mais au lieu de nous exclure définitivement de sa présence, lui-même a choisi de couvrir et d'effacer nos fautes. Dieu a accompli ce que nous ne pourrions jamais faire de nous-mêmes, et grâce à son don, nous pouvons jouir de tous ses bienfaits.
Merci Yann. Avant de conclure, il serait bon de lire un autre texte trouvé dans les prophètes qui souligne cette leçon. Pouvez-vous lire Yann, Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Il s'agit d'une vision que le prophète reçut et qu'il décrit.
Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu ?» Oh, Josué était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui, et leur ordonna, « Ôtez-lui ses vêtements sales !» Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. »
Dans cette vision, Josué, le grand prêtre à l'époque, se trouve devant l'Éternel, le juge. Satan est présent aussi pour l'accuser et rappeler devant l'Éternel toutes les fautes que Josué a commises. Normalement, l'Éternel, le juge, devrait condamner Josué et l'expulser de sa présence. Mais que se passe-t-il en fait ?
Un ange vient enlever les vêtements sales portés par Josué et à la place, il le revêt d'habits de fête.
Oui, et l'ange explique ce que cet acte signifie car il déclare « J'ai enlevé le poids de la faute que tu portais. »
Oui, je constate que cette vision établit un parallèle entre le changement de vêtements et le fait que Dieu peut effacer nos fautes et nous rendre purs. Pourquoi, selon vous, Dieu a-t-il donné cette vision au prophète Zacharie?
Nous avons lu que Josué était le grand prêtre. En tant que tel, il devait exercer ses fonctions dans le nouveau temple. Il devait agir en médiateur entre Dieu et le peuple et pour remplir ce rôle, il devait pouvoir se présenter devant l'Éternel, juste et pur. Josué était-il conscient d'avoir péché? Ne se sentait-il pas à la hauteur d'une telle responsabilité? Y avait-il des personnes qui l'accusaient ou qui pensaient qu'il n'en était pas digne? Nous ne savons pas. Mais une chose est certaine, Zacharie dut raconter cette vision à Josué afin de le rassurer. Ce dernier put alors reprendre son service devant l'Éternel, confiant que Dieu l'acceptait, puisqu'il lui avait pardonné ses fautes.
Et pour conclure, quelle leçon pouvez-nous en tirer?
Vous pouvez vous sentir comme Josué, c'est-à-dire indigne d'entrer dans la présence de Dieu. Vous pouvez vous sentir accusé et sale à cause d'un passé lourd, à cause d'accusations faites contre vous. Votre conscience peut vous rappeler vos fautes présentes ou passées. Nous portons toutes ces choses comme des guenilles, des vêtements sales et déchirés. Or, le texte lu nous assure que Dieu est disposé à ôter nos vêtements sales pour nous revêtir d'habits de fête. C'est-à-dire qu'il est disposé à nous pardonner nos fautes, à nous purifier de notre péché, afin que nous puissions jouir de ses bienfaits et de sa présence. Vous pouvez vous exclamer, mais comment cela est-il possible? Voilà une très bonne question, une question importante. J'y répondrai la prochaine fois.
La gloire de Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean. Voici le titre de notre série des méditations bibliques. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce que Jean-Baptiste déclare au sujet de Jésus. Notre invité Jean-Yves est de retour parmi nous pour nous conduire dans nos réflexions. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Commençons avec la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 15. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit. celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. »
Jean-Baptiste, en voyant Jésus arriver là où il se trouvait, affirme cette vérité à son sujet.
Oui, et ce verset confirme ce que nous avons déjà appris la dernière fois. Jean est venu pour préparer le chemin à une personne plus importante que lui encore. En affirmant « Voici celui dont je vous ai parlé », Jean confirme que Jésus est, et sera, l'accomplissement de toutes les prophéties concernant le roi sauveur promis de Dieu.
Passons maintenant aux paroles. « Celui qui vient après moi m'a précédé, parce qu'il existait avant moi. » Quel est le sens de ce verset ?
Il est vrai que ces paroles peuvent surprendre et nous rendre perplexes. D'autant plus quand nous savons que non seulement Jean a commencé son ministère avant Jésus, mais qu'il est aussi né avant lui.
Et comment pouvez-vous affirmer ces choses ?
C'est dans l'évangile de Luc que nous lisons les circonstances des naissances de Jean et de Jésus. En fait, ces deux naissances sont issues de grossesses miraculeuses. Jean est né d'une femme qui, comme son mari, était âgée. De plus, elle n'avait jamais pu avoir d'enfant. Jésus, quant à lui, est né de Marie. Il fut conçu sans l'intervention de relations sexuelles avec un homme. Il fut conçu par la puissance de l'Esprit-Saint. Ce qui nous intéresse alors est le fait qu'en lisant Luc chapitre 1, verset 36, un ange déclara à Marie « Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils. Elle en est à son sixième mois. » Ainsi, au moment même où Jésus fut conçu, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était déjà enceinte de 6 mois.
Comment Jean-Baptiste peut-il alors affirmer que Jésus existait avant lui ?
Jean a dû comprendre, à travers une révélation, que Jésus était, comme nous l'avons déjà appris, Dieu devenu homme. Il a dû comprendre qu'en Jésus, l'éternel Dieu, celui qui existe depuis toujours, s'est revêtu d'humanité. Il fut probablement parmi les premiers hommes à être convaincu de ce mystère.
Et c'est toujours un grand mystère.
Absolument. Mais à travers ce que déclare Jean-Baptiste et d'autres prophètes, Dieu peut nous accorder une révélation et nous permettre d'apercevoir et de saisir quelque chose de la nature glorieuse de Jésus-Christ.
Ces dernières paroles reflètent notre désir pour vous, chers amis. Que l'Éternel, dans sa miséricorde, vous accorde une pleine révélation de la gloire et de la grâce de Jésus-Christ.
La prochaine fois, nous apprendrons davantage ce que Jean-Baptiste déclara au sujet de Jésus. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.